Bon matin, Église Le Sentier. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je veux souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui sont à la maison. Vraiment content d'être ensemble. Enfin, de plus en plus, ça sent le déconfinement et j'entendais Alexandre nous parler, puis même Sergueï avant, puis ce désir d'être ensemble, ce désir d'être en relation, d'être connectés les uns aux autres, c'est vraiment fort et c'est vraiment une bénédiction que comme enfant de Dieu, comme membre d'une église, on puisse le vivre. Et quand on le vit physiquement, comme ce matin, ça fait du bien, mais de savoir qu'on est là les uns pour les autres, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'aimerais juste rappeler l'invitation de Pasteur Normand pour la rencontre de la semaine prochaine. Vous avez entendu beaucoup des choses qui ont été faites dans le quartier Notre-Dame dans les derniers mois, donc il y a plein d'idées qui sont là et plein de possibilités de services qui ne dépendait pas nécessairement du bâtiment, qu'on veut continuer. On veut continuer à servir, on veut continuer à bénir notre ville. Donc, on vous invite à venir. Si vous êtes intéressé, on avait plus de 40 personnes qui avaient mentionné qui voudraient participer comme bénévoles dans ce projet-là. Bien, il y a encore une possibilité pour toi de t'impliquer. Donc, la semaine prochaine, ça va être vraiment de discuter des différentes possibilités d'implication, des idées qu'on pourrait avoir, qu'on voudrait vous proposer aussi. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Donc, ce matin, quand je pense à l'Église, et on vient juste de le mentionner, mais quelle joie de dire que j'ai une famille. Quelle joie de dire que je fais partie d'une équipe, je fais partie d'un projet qui est plus grand que moi, n'est-ce pas? Qui est plus grand que ma vie, que ma personne, mais je fais partie d'un projet qui est plus grand que moi. Et depuis quelques mois, on est dans cette série « Envoyé » dans le livre des Actes, qui est le début de la vie de l'Église comme on la connaît, l'Église, comme nous on est une Église aujourd'hui ici en 2021, mais dans le livre des Actes, on voit les premiers pas de l'Église, cette famille qui s'est unie ensemble autour de Jésus et de son Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus et qui a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et quelle joie de réaliser qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Moi, je suis un grand amateur de sport, excité par la tournure des événements dans le hockey présentement, avec les Canadiens de Montréal qui sont encore en série. Habituellement, au mois de juin, quand une équipe est en série, ils sont en finale de la Coupe Stanley. Mais on va pas trop rêver trop vite, mais là, à cause de la pandémie, les choses ont été un petit peu plus tard cette année. Mais quand on pense à une équipe de sport, une équipe de hockey, si tu as déjà fait partie d'une équipe de sport, tu le sais que, bon, il y a les matchs qui se jouent sur le terrain, mais il y a toute la camaraderie qui se passe entre les matchs, les pratiques, les tournois, le temps qu'on passe dans la chambre des joueurs à parler puis à bâtir des relations. Et bien souvent, une équipe de sport va comme avoir un but commun, mais ça n'arrive pas toujours qu'une équipe va se mettre ensemble, va s'unir, puis être capable, peu importe le talent qu'il y a dans l'équipe, réussir à aller jusqu'au but ultime, qui est de gagner le championnat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à devenir une équipe, une famille, un groupe tissé serré qui pousse dans la même direction, puis qui ont un objectif commun. Et souvent, quand on est ensemble, on vit de l'adversité, on vit des difficultés, c'est souvent dans ces moments-là que un groupe va devenir un. Et le même groupe qui, au mois de décembre, avait de l'air à se chercher, à se perdre. On disait, ils sont pas bons, il manque encore plein de talent dans leur équipe. Oui, je parle des Canadiens, parce que nous, les fans des Canadiens, quand l'équipe perd, on chiale. Puis quand l'équipe gagne, on a la meilleure équipe au monde. OK, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais quand la même équipe en décembre, qui est vraiment pas bonne, se retrouve au mois de juin, puis là, il est comme en train de battre des équipes qui sont supposément meilleures qu'elle. C'est parce que probablement qu'en quelque part, ceux qui ont fait du sport, vous le savez, cette équipe-là s'est retroussée les manches, elle s'est unie vers un but commun et probablement que ces gars-là ils ont une idée en tête, puis c'est d'aller jusqu'au bout. Quand on réalise qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, parfois on peut se sentir impuissant, on peut se sentir seul, on peut avoir peur, on peut dire hey, « je suis pas prêt ». Mais quand on réalise qu'on a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, quand on réalise qu'on a ce qu'il faut pour faire partie de cette entreprise, de faire partie de ce projet, de ce but, de cette mission, quand on réalise qu'on a ce qu'il faut, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et ce qui est vraiment intéressant quand on pense à Jésus, quand on pense à Jésus, le sauveur du monde, quand on réalise qu'on a un coach qui connaît toutes les tactiques, qui sait tout ce qu'on a besoin de faire, mais qu'en plus, que le coach, c'est aussi un joueur, puis c'est le meilleur joueur sur la glace, puis il a déjà procuré la victoire. Tu sais que tu vas gagner. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'il est venu à la croix mourir pour nos péchés, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu les peurs. Jésus a proclamé la victoire, donc l'autorité sur toute chose. Quand il est ressuscité, Jésus a démontré toute sa puissance pour vaincre tout le mal sur la terre et proclamer la victoire sur toute chose. Et ceux qui le suivent vont avoir la vie éternelle, vont vivre heureux avec lui pour toujours. Et c'est ce qu'on voit. L'Église primitive, c'est les apôtres. Les mêmes apôtres qui, quand Jésus est mort, ont perdu tout espoir et sont retournés faire ce qu'ils faisaient avant. Et pour eux, c'était terminé. On venait de vivre 3 belles années avec Jésus, le maître qui devait nous libérer des Romains, qui devait changer le monde. On a vu des miracles, on a vu des choses extraordinaires. Les apôtres étaient tellement confiants quand ils étaient avec Jésus pendant sa vie qu'à un moment donné, il y a des apôtres qui ont dit à Jésus, « Hey, eux, là, ils veulent pas t'écouter. Tu as juste à nous le dire, puis tu peux faire descendre le feu du ciel sur eux, puis ça va être fini pour eux autres. » Ils étaient tellement confiants qu'ils pensaient là, qu'il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Jésus devait leur expliquer que c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais les apôtres étaient sans crainte. Ils suivaient Jésus. Ils n'avaient pas peur. Et là, Jésus meurt. Et ils s'en vont, perdent espoir complètement. C'était un beau projet, c'était un beau 3 ans, mais là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais ce matin, on va voir que les apôtres ont découvert et on peut découvrir cette joie d'être témoin de l'œuvre de Jésus et participant de sa mission. La joie d'être témoin de l'œuvre puissante de Jésus et de participer à sa mission. Il y a vraiment une joie et un privilège de pouvoir participer à son œuvre. Et on va le voir dans, on va lire ensemble dans en Actes 5, 33 à 42. Mais juste avant de lire, juste vous donner un petit peu d'introduction à ce passage, ce qu'on voit juste avant le verset 33 dans Actes 5, voici l'œuvre de Dieu à l'époque. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là où se passe la scène qu'on va lire ensemble ce matin? Le texte nous dit que beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient. Le peuple, tout le peuple, tenait l'Église en haute estime. À cette époque-là, l'Église était attirante. L'Église était, les gens aimaient l'Église, les gens voyaient ce qui se passait dans l'Église, les gens étaient attirés, ils voulaient ça. L'Église grandissait en nombre, il y avait de plus en plus de chrétiens. Toute Jérusalem était bouleversée par ce qui était en train de se passer, l'Église qui était en train de se former. Il y avait des foules qui accouraient des alentours de Jérusalem pour apporter des malades, on guérissait les malades, il y avait des miracles qui se faisaient. Tous étaient guéris, la Bible nous dit. Et ensuite, pour la deuxième fois, on va arrêter les apôtres et pendant la nuit, les apôtres se font libérer miraculeusement par des anges de prison. Puis tout le monde le savait après qu'il y avait quelque chose qui s'était passé comme de surnaturel. Les gardes étaient là, il n'y avait personne qui avait bougé de là, mais les apôtres étaient sortis de prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir vécu cet emprisonnement-là? Ils sont retournés dans le temple et ont continué à parler de Jésus. Et là, les chefs religieux viennent les chercher, on les amène devant le conseil, le Sanhédrin, et là, on parle avec eux. Et encore une fois, comme la première fois que les apôtres étaient devant les chefs religieux, les apôtres vont accuser les chefs religieux d'être responsables d'avoir tué Jésus. Et ils ont refusé l'ordre de ne plus parler de Jésus, car ils ont dit, on veut obéir aux hommes, à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Et là, les pharisiens, les chefs religieux étaient en furie, étaient dans tout leur état. Et voici le texte qu'on va lire ce matin. Acte 5, verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Si vous voulez bien, on va prier à ce point-ci. Seigneur Jésus, merci parce que pour ta parole puissante que tu nous envoies ce matin. Merci pour cette vérité. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Tout ce que tu as fait depuis ce jour jusqu'à maintenant. Tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu te soucies de nous aujourd'hui. Et ce qu'on te demande, Seigneur Jésus, c'est de parler à nos cœurs ce matin pour qu'on puisse être encouragé, transformé par ta parole, par ton œuvre dans nos vies. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen. Donc, les apôtres se retrouvent devant le conseil et il y a cet homme, Gamaliel, un pharisien, un vieux pharisien qui était estimé de tous, probablement comme cet homme qui se lève dans la salle et là, tout le monde dit, « OK, Gamaliel va parler, on écoute, parce que c'est un homme sage qui va parler. » Ce qui est intéressant ici, c'est que la parole ne nous dit pas que Gamaliel avait reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. La parole ne nous dit pas que Gamaliel était un chrétien qui voulait absolument aider les apôtres. Mais certainement, on voit que Dieu l'utilise pour son œuvre et que Dieu utilise sa sagesse et sa crainte de Dieu pour pouvoir protéger les apôtres dans cette situation. Mais il y a vraiment un principe intéressant qui va nous amener ici. Si cette entreprise vient des hommes, ça va se détruire, comme les exemples qu'il a donnés. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ce qui est arrivé quand Jésus est mort, les disciples se sont dispersés. Mais là, Jésus est revenu à la vie et les disciples avaient cette assurance. Il n'y avait aucune crainte. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, que Jésus-Christ était Dieu lui-même qui était venu sur la terre et qui avait donné sa vie pour eux. Ils étaient prêts à mourir pour lui. Ils étaient prêts à souffrir pour lui. Mais ici, Gamaliel arrive et dit, « Si ça vient des hommes, personne ne va pouvoir l'arrêter. Mais par contre, si ça vient de Dieu, si ça vient des hommes, Si ça vient des hommes, ça va mourir. Mais si ça vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut arrêter le projet de Dieu. Les pharisiens qui représentent l'autorité du peuple et qui représentent comme la voix de Dieu envers le peuple ne reconnaissent pas et ne voient pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment même dans Jérusalem. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem, puis comme chrétien, des fois, je me dis dans ma propre vie, hey, j'aurais aimé ça être là à ce moment-là, de voir tous les malades qui ont été guéris, tous les miracles qui ont été faits. Il me semble que ça devait être évident que ce que Jésus faisait à cette époque-là, c'était vrai, puis c'était puissant. Le monde entier était en train de voir Dieu à l'œuvre, d'une manière puissante. Et il y en a qui ont été transformés par l'œuvre et le message de Jésus. Et il y en a qui ont simplement, ils se sont entêtés, ils n'ont pas cru. Et au contraire, les chefs religieux qui étaient ceux qui auraient dû voir les signes, qui auraient dû reconnaître les miracles de Jésus et reconnaître les temps dans lesquels ils se trouvaient, c'est-à-dire le moment où le Messie, le Sauveur du monde allait venir sur cette terre, sont ceux qui n'ont pas reconnu Jésus. Les pharisiens se sont entêtés. Et c'est vraiment encourageant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série en ce moment qui est pas mal populaire, en fait, là, sur la vie de Jésus, The Chosen, qui est comme une série où on prend des textes bibliques, où on prend les histoires de la vie de Jésus, mais on prend comme notre temps. Donc oui, il y a des faits ajoutés, il y a des personnages même qui sont ajoutés, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais certainement que les auteurs ont vraiment voulu être le plus fidèles au caractère de Jésus et à l'histoire qu'ils sont en train de présenter. Et la dernière fois que j'écoutais The Chosen, j'ai réalisé quelque chose que je n'ai jamais réalisé encore quand je lisais ma Bible, puis c'est le fun pour ça de pouvoir comme apprendre des nouvelles affaires, mais je voyais Jésus qui parlait à plusieurs personnes. Puis dans The Chosen, on voit des gens comme tout de suite quand ils voient Jésus, ils reconnaissent le Fils de Dieu. On le voit dans les Écritures. Quand Jésus approche ses apôtres, Jésus va dire à un de ses apôtres, il va lui dire qu'est-ce qu'il a fait, comme où ce qu'il était. Puis là, la personne a dit, « Hey, c'est sûr que tu es le Fils de Dieu. » Tout de suite, reconnu que Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Mais d'autres personnes ont vu des miracles, ont vu ce qui se passait, ont questionné Jésus, puis ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Et je me disais, parfois, on est là, puis on veut partager notre foi avec des personnes, on veut aimer les gens, on veut leur parler de Jésus. Puis pour nous, c'est comme, aïe, Jésus m'a tellement aimé, j'ai goûté à l'amour de Jésus, j'ai goûté à sa puissance, j'ai goûté à son pardon, je suis libéré de mes fautes, libéré de ma culpabilité. J'aimerais tellement ça que les gens autour de moi puissent goûter à cet amour-là. Mais je réalisais que même Jésus, quand il parlait de Jésus avec quelqu'un, c'est pas tout le monde qui a cru en Jésus. Même Jésus, quand il était sur la terre, il y a des gens qui ont été transformés par son message, mais c'est pas tout le monde qui ont cru. Mais ça n'empêche pas que la puissance de Dieu se déploie encore aujourd'hui. Quand je pense aux paroles de Gamaliel, on pense à ces paroles où il dit « Si ça vient de Dieu, il n'y a rien qui va pouvoir le détruire. » Et c'était vraiment le but des hommes religieux, que cette entreprise puisse s'arrêter, qu'on puisse « Hey, on a mis Jésus à mort pour qu'on arrête de parler de cet homme-là. » Là, c'est ses apôtres qui continuent. On veut les tuer aussi. On veut arrêter ça. On veut que ça cesse ce mensonge. Pour eux, c'était un mensonge, c'était pas vrai. Et là, tu regardes aujourd'hui, puis tu dis, j'ai calculé ça, ça prend quelques secondes sur Google, mais 2000 ans plus tard, à près de 9000 kilomètres de Jérusalem, il y a une église qui se rencontre ce matin. Il y a une église qui est encore ici. Certainement, frères et sœurs, que cette entreprise venait de Dieu. Dieu, si c'est de Dieu, si notre projet est de Dieu, si l'Église c'est de Dieu, ça va arriver. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Il n'y a rien qui peut arrêter le travail de Dieu. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir être témoin de la puissance de l'œuvre de Dieu dans nos vies. De voir ce que Dieu fait dans ma vie ou de ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est une grâce, ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. C'est vraiment une joie de pouvoir goûter à la puissance de Dieu, de voir Dieu agir et faire des choses. C'est pas quelque chose de mal ou c'est pas quelque chose qu'on devrait se sentir mal de pouvoir être content de voir l'œuvre de Dieu, de pouvoir voir Dieu faire des choses. Et vous savez, depuis quelques semaines, on vous a présenté un projet du Sentier Notre-Dame. Et ce qui m'a fasciné dans tout ce projet-là, dans tout ce qui se passe sur la rue Notre-Dame, c'est de voir à quel point on voit l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. C'est de voir à quel point on voit Dieu agir dans, dans la vie de notre pasteur. Si vous n'avez pas vu le panel de la semaine passée, allez voir ça. Norman nous partage comment Dieu a travaillé dans sa vie dans ces dernières années. Comment Dieu est à l'œuvre dans la vie des bénéficiaires, des usagers, des gens qui sont dans le quartier. Comment Dieu est à l'œuvre dans la vie des bénévoles auprès de ces gens-là. Comment Dieu dirige les pas. Et pour nous, en tant que leadership, en tant que pasteur de l'Église, c'est ce désir qu'on a de prendre l'Église et de dire, Seigneur, où veux-tu qu'on soit? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la ville pour qu'on puisse être tes serviteurs et on puisse être en train d'accomplir l'œuvre que tu nous demandes d'accomplir? Parce que si ça vient de toi, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et je vous dis, Église Le Sentier, Je suis tellement reconnaissant pour les leaders qu'on a ici à l'Église, pour notre conseil d'anciens qui recherche constamment la face de Dieu, constamment d'obéir au Seigneur. Certainement qu'il y a eu un projet extraordinaire qui a été présenté. On a des idées que Dieu nous donne. Et dans tout ça, le conseil, les pasteurs, les leaders de l'Église étaient excités de chercher la face de Dieu. Étaient excités de pouvoir poursuivre la volonté de Dieu. Et comme on a vu dans la vidéo, peut-être que pour certains d'entre nous, après une semaine plus tard où on a entendu le panel, où on était tout excités de vous présenter le projet, l'achat du bâtiment, peut-être que tu te dis ce matin, wow, c'est comme tout un revirement de situation. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. On est toujours excité de chercher la face de Dieu et de faire le bien. Si on arrive ici ce matin et qu'on dit « c'était pas un bon timing, l'achat du bâtiment », c'est parce qu'on veut faire le bien, c'est parce qu'on veut honorer Dieu avec ce que Dieu nous donne. Mais par contre, ce qu'on veut faire, c'est être à l'écoute de Dieu et être prêt à prendre les risques que Dieu nous demande de faire pour l'obéir et être là où Dieu veut qu'on soit. Parce que Dieu est en train de faire avancer son Église. Dieu est en train de se faire connaître dans le monde. Dieu est en train de faire grandir son Église. Et ça, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu choisit de nous utiliser. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Tellement une bonne nouvelle. Alors, n'ayons pas peur de rêver. N'ayons pas peur de continuer à chercher la face de Dieu. D'être étiré, de sortir de notre zone de confort pour pouvoir être là où Dieu veut qu'on soit. Parce que si ça vient de Dieu, il n'y a rien qui va arrêter cette entreprise et il n'y a rien qui va nous arrêter. C'est une grâce de pouvoir faire partie de l'œuvre de Dieu, de pouvoir goûter et de voir la puissance de Dieu, d'être témoin de son œuvre. On est témoin de la puissance de l'œuvre de Dieu. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on puisse faire partie de son œuvre. Jésus nous invite dans son équipe pour qu'on puisse participer à son œuvre, de se faire connaître au monde, à son œuvre de réconciliation avec sa création. C'est vraiment intéressant parce que les apôtres sont là, ils défendent leur foi devant le Sanhédrin. Dès qu'ils sortent de prison, ils retournent parler de la foi. Et là, ils sont de retour devant le Sanhédrin. Cette fois-ci, on ne va pas juste les avertir, mais on va les fouetter. Puis on va les menacer encore. Arrêtez de parler de ce Jésus. Et je vais juste vous relire les versets 41 et 42, après que les apôtres ont été battus, dans le fond. On pense qu'ils ont été battus de 40 coups moins 1, c'est-à-dire... le châtiment, juste comme on veut te faire souffrir le plus avant de te faire mourir. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Les apôtres se font fouetter, ils souffrent. Leur confort est mis à dure épreuve ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à être témoins de l'œuvre de Jésus, de partager ce que Jésus a fait dans leur vie, de partager l'amour de Jésus, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Ils vont continuer à faire ce que Dieu leur demande de faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus. L'Église Ce qui est vraiment incroyable, c'est que quand tu es témoin de la puissance de Dieu, donc l'Église, qui est témoin de la puissance de Dieu, est convaincue que Dieu agit et que Dieu va continuer à faire avancer son œuvre. Et l'Église est convaincue que Dieu est dans ce monde, est en train de transformer des vies. Et pour les apôtres, c'est comme, on ne peut pas rien faire d'autre que continuer. Même que le texte nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes, d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Incroyable, non? On va souffrir et on est joyeux d'avoir été jugés dignes. Et deux raisons pourquoi les apôtres, deux raisons que j'aimerais vous partager pourquoi les apôtres sont joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir. Et ça, c'est vraiment deux raisons qu'on peut garder charmant dans nos cœurs quand on vit de la souffrance, quand on vit de l'opposition. Quand peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous quand on partage la foi, quand quelqu'un, peut-être qu'on sent qu'il y a une relation, quelqu'un est de plus en plus distant avec nous parce qu'on lui a partagé le message de l'Évangile. Quand on sent qu'on a un prix à payer comme chrétien, des choix à faire, quand on trouve ça difficile d'obéir à Jésus, ça serait beaucoup plus facile de faire quelque chose qui est contre la volonté de Jésus. Deux choses qui peuvent être chères à nos cœurs. La première, c'est que les apôtres goûtent à une promesse de Jésus. À ce moment-là, quand ils sont en train de souffrir, les apôtres sont en train de goûter à une promesse de Jésus. Dans Matthieu 10, 22, on lit, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les apôtres sont en train de goûter à cette promesse. Oui, il y a des gens qui vont vous détester, mais persévérez, parce que si vous persévérez, voilà le signe d'un enfant de Dieu qui va passer l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu, par la persévérance. On est à la bonne place quand on fait la volonté de Dieu, peu importe ce qui arrive, peu importe les conséquences, peu importe si on cherche à plaire à Dieu, on est à la bonne place. On est à la bonne place quand on est rempli d'amour pour notre prochain. Tant mieux si être rempli d'amour pour mon prochain dans une certaine situation, c'est populaire, puis que les gens aiment ça, puis que le monde aime ça, puis que c'est une cause que d'autres personnes qui ne croient pas en Jésus aiment. Mais quand aimer mon prochain, c'est plus une cause qui est populaire, on continue à faire le bien là où on est, puis Dieu va toujours nous bénir, puis on est à la bonne place. Dieu va accomplir ses promesses envers nous. L'autre bonne nouvelle, l'autre raison pourquoi ils sont joyeux, c'est qu'ils goûtent, à ce moment-là à une intimité, à la relation avec leur Sauveur Jésus-Christ. Ils ont passé 3 ans en présence avec Jésus. Jésus est parti au ciel, mais à ce moment-là, ils sont en train de goûter à la présence de Jésus dans leur vie. Jean 14 nous dit, « Quant à moi, je prierai le Père. » Jean 14, 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Il ne se laisse pas effrayer. Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous pour des moments exactement comme ces moments-là. Des moments où rien ne fait plus de sens, des moments où on se sent seul, des moments où on est angoissé, des moments où on souffre, des moments où on est tiraillé entre faire le bien que Dieu nous demande de faire ou faire le mal qu'on aime faire. Dans ces moments de tiraillement, dans ces moments difficiles dans nos vies, Jésus nous rappelle qu'il nous a donné sa paix avec nous. Jésus est avec nous. Jésus est avec toi ce matin. Et ils sont à ce moment-là en train d'expérimenter la paix, la présence de Dieu qui leur permet de sortir du Sanhédrin et de continuer l'œuvre que Dieu leur demande de continuer. Une question que j'aimerais nous poser ce matin, puis je me la pose à moi premièrement, cette question-là. Et c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir cette semaine. Mais quand je vois les apôtres qui expérimentent l'amour et la puissance de Dieu, puis qui continuent à suivre Jésus et à servir Jésus, peu importe ce qu'ils perdent, ils perdent leur sécurité, ils perdent leur confort, mais ils continuent à être en mission et à partager le message de l'Évangile. Quand les apôtres continuent, ils persévèrent, je me pose cette question. Est-ce que ma vie tourne autour de Jésus? Est-ce que ma vie tourne autour de Jésus et ce que Jésus demande de moi? Ou est-ce que Jésus fait partie de ma vie qui tourne autour de moi? Et je me posais cette question-là cette semaine, puis je me disais, puis c'est pas pour qu'on se culpabilise puis qu'on se sente mal ce matin, non, c'est pour réfléchir. Est-ce que Jésus est le centre de ma vie où je cherche toutes mes décisions, toutes mes réflexions, mes projets pour mon avenir? Est-ce que je demande à Jésus de faire partie de ma vie, d'être le centre de ma vie, puis de dire, Seigneur, prends-moi, puis envoie-moi où tu veux. Je veux être un témoin fidèle de Jésus là où tu m'amènes. Je veux persévérer dans ton amour. Je veux vivre la vie chrétienne à tous les jours de ma vie. Ou est-ce que Jésus fait partie de ma vie à certains moments quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de prière, quand j'ai besoin de quelque chose, ou une fois par semaine, je vais à l'église ou je vais lire ma Bible à l'occasion, puis le reste, ça ne regarde pas Jésus, le reste, ça me regarde moi. Puis je vous avoue que moi-même, je lutte avec ça dans ma vie. Il y a plein de choses que j'aime, puis parfois je me demande, Seigneur, est-ce que là, c'est toi qui es le maître ou c'est Dominique qui est le maître? Et ce matin, je veux qu'on se rappelle que pour que Jésus soit entièrement le maître de nos vies, on a besoin de se souvenir, de goûter à la joie, au privilège d'être témoin de l'œuvre puissante de Dieu dans nos vies et autour de nous, et à la joie de participer à son œuvre. C'est une grâce. À chaque jour, je veux me rappeler que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Jésus. Et j'aimerais ça inviter l'équipe de louange. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Vous pouvez rester assis. Les placeurs vont vous apporter, ceux qui sont ici au bâtiment, les placeurs vont vous apporter les éléments. Si vous êtes à la maison, vous pouvez aller chercher les éléments ou peut-être c'est déjà prêt. Mais ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et Jésus, juste avant de mourir, a pris ce repas avec ses disciples. Et essentiellement, Jésus a dit, à chaque fois que vous allez prendre cette coupe et que vous allez prendre ce pain, faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, j'aimerais, pendant que l'équipe de louange va nous amener dans un chant, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à l'œuvre de Dieu dans nos vies, qu'on puisse se souvenir de ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait présentement. Peut-être que tu peux demander à Dieu, Seigneur Jésus, montre-moi un œuvre puissant, un œuvre que tu as accompli dans ma vie dans les dernières semaines ou dont j'ai été témoin autour de moi. Montre-moi ton œuvre. Je veux être témoin de ta puissance. Ce matin, on veut se souvenir la joie qui est de participer à l'œuvre, à la plus grande mission de l'histoire de l'humanité, qui est Dieu qui veut se réconcilier avec sa création, Dieu qui veut faire éclater sa gloire dans toute la création. Et nous sommes l'Église Le Sentier, nous avons ce rêve ensemble d'être une équipe, d'être une famille qui va saturer notre ville de ce message-là, de l'amour de Jésus en parole et en action. On veut influencer la francophonie. Et ce matin, individuellement ici, dans ton cœur, dans toi avec Jésus, demande à Jésus qu'il puisse t'aider à te souvenir et à voir sa puissance et qu'il puisse te rappeler la joie de faire partie de son œuvre. Donc, on va chanter ensemble et ensuite, je vais revenir pour qu'on puisse prendre les éléments.